du côté des poursuites, en fait, vous savez que c'était un des gros points faibles ou des reproches qui avaient été faits à la RDC, d'être un petit peu complaisante ou de ne pas être assez vigoureuse en matière de répression, donc des crimes de violence sexuelle. Je dirais que depuis que nous avons rejoint cette mission, en coalition avec le ministère de la Justice, l'état-major général de l'armée congolaise, nous avons en tout cas mis l'accent particulièrement là-dessus. Surtout au niveau de la justice militaire. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui étaient les plus cités, hein, en général, comme étant auteurs de violences sexuelles, les forces de sécurité, les militaires. Et donc, il était temps de montrer l'exemple à ce niveau-là, parce que ce sont des serviteurs de la République. Donc, ils doivent être encore plus exemplaires, puisqu'ils servent sous le drapeau. Et ils ont donc une obligation de modèle et d'exemplarité. Et donc, ce que nous avons fait, nous avons aidé, au travers de l'auditorat militaire, de tous les parquets militaires de la République, à une accélération des décisions de justice, à une intolérance vis-à-vis des cas de violences sexuelles. Et ça aboutit, en fait, notamment, pour donner quelques exemples, à ce que nous ayons 135 décisions de condamnation pour des cas de violences sexuelles de août 2014 au premier trimestre 2015. Ça aboutit notamment au fait que même les hauts gradés qui semblaient avant, en tout cas dans une certaine perception, être au-dessus de la loi, puissent être condamnés. Et ainsi, nous avons condamné le général Kiakwavu. C'est la première fois en RDC, peut-être même en Afrique, qu'on condamne un général pour des cas de violences sexuelles. Le dossier était très complexe parce que c'était un ancien seigneur de guerre. Il avait opéré ses crimes de violence dans des zones qui étaient anciennement sous occupation. Il a fallu 7 ans pour collecter les preuves. Au moment où il a commis le viol, les victimes avaient 12 et 13 ans, donc 2 petites filles. Et 7 ans après, bien sûr, elles étaient devenues majeures, voulaient peut-être un peu plus de sécurité, de respect de leur vie privée. Mais leur mère était particulièrement engagée aux côtés du ministère public congolais. Et ça nous a permis donc de condamner à 10 ans de prison le général Kiakwavu et 100 000 $ de dommages et intérêts. Alors, nous avons aussi le cas, par exemple, dans la province du Kassai, qui est une province diamantifère, la condamnation du numéro 2 de la police pour séduction dolosive d'une petite fille de 15 ans. Et il a été condamné, lui aussi, à 10 ans de prison et des dommages et intérêts et révoqué de la police. Alors, de plus en plus, ce type de décision assoit évidemment le sentiment de justice et nous sommes très engagés sur cette question-là.
Est-ce que vous estimez disposer des moyens nécessaires pour faire votre travail ?
C'est une question qui est pertinente parce qu'effectivement, il faut savoir que les défis sont là. Il n'y a peut-être pas une réponse parfaite, mais en tout cas, avant les moyens, je pense que ce qui était très important, c'est surtout la volonté. Parce que les moyens ne viennent que quand il y a une volonté. Vous pouvez avoir tous les moyens du monde, mais s'il n'y a pas une appropriation nationale, une volonté politique du plus haut niveau vers le bas niveau et inversement, vos moyens ne serviraient à rien. Donc au moins, avant les moyens, nous avons cette volonté politique, cette appropriation nationale et cet engagement en fait de toute la nation au travers des institutions publiques. Puisqu'avant, c'était plus un petit peu le champ de la société civile. Mais c'est vrai que les moyens restent un véritable challenge parce que nous voudrions étendre l'action et les progrès que nous essayons d'impulser avec le retour à la paix. Et donc ça, effectivement, ça nécessite des moyens humains, des moyens financiers, des moyens logistiques, surtout dans un pays qui est grand comme le Congo. Quand vous êtes à Kinshasa, la capitale, et que vous devez intervenir à l'est du Congo, qui sont les deux Kivu, par exemple, où il y avait une forte prévalence de violences liées au conflit, eh bien oui, il y a un défi logistique et un défi financier et humain. Et donc c'est vrai que la question des moyens est au cœur aussi de la problématique. Mais ça ne doit pas nous arrêter. Je pense que la volonté fait d'abord la différence.
Les sévices sexuels n'ont pas entièrement cessé en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si une femme est agressée ou une petite fille, qu'est-ce que vous conseillez à ces femmes et leurs familles ?
Non, les sévices sexuels n'ont pas cessé en République démocratique du Congo comme ils n'ont pas cessé dans le reste du monde. Et donc ça, c'est important. Par contre, je peux déjà vous donner quelques chiffres indicatifs de la tendance baissière avant de répondre à la question. C'est que dans le dernier rapport des Nations Unies en 2013 sur l'état du monde en matière de violences sexuelles, la RDC était listée pour 15 000 cas de violences sexuelles liées au conflit. En 2014, et c'est la raison aussi de ma présence à New York pour m'exprimer devant le Conseil de sécurité, nous sommes à 10 812 cas, soit une baisse de 33%, qui intervient évidemment dans un contexte de retour au contrôle du territoire et de paix. Mais si une femme ou une petite fille est violée aujourd'hui, au-delà des questions de la justice, nous avons maintenant mis sur pied une ligne d'appel, une ligne de secours, Et ça permet à toutes les personnes, parce que le Congo est grand et que les personnes peuvent se trouver dans des zones reculées rurales, ça permet à toutes les personnes d'appeler un numéro vert, un numéro d'urgence, où dans l'intimité, en fait, de leur téléphone, elles peuvent appeler à l'aide. Parce qu'il faut se souvenir qu'avec notre culture bantoue, on a une certaine inhibition pour parler des questions d'intimité et de sexualité. Et donc, nous avons mis en place ce call center. Dans ce call center ou ce centre d'appel, il y a quelqu'un qui répond au téléphone dans toutes les langues nationales. Nous avons 4 langues nationales. Et ça peut les orienter vers des centres de référencement proches dans leur région, donc des centres d'aide médicaux de premiers soins ou des références à des cliniques juridiques ou des associations de la société civile qui peuvent les aider à porter plainte ou à conduire leur plainte vers la justice. Et donc, c'est ce que nous faisons aujourd'hui.
Pour parler du recrutement des enfants dans les conflits armés, c'est un fléau qui affecte un certain nombre de pays en Afrique, qui a beaucoup affecté la RDC, notamment dans l'est du pays. Où est-ce qu'on en est ?
Écoutez, pour le conflit des enfants armés, il faut reconnaître que ça va un petit peu de pair et on est plus avancé. La situation de départ dans les conflits armés, c'était que la RDC, en tout cas des suites de son héritage d'insécurité qui avait perturbé finalement le pays pendant une dizaine d'années, pouvait dans le passé détenir en son sein des mineurs d'âge qui se trouvaient dans l'armée. Et donc c'était un point qui avait été soulevé à plusieurs reprises, pour lequel en fait depuis les programmes de démobilisation, de réintégration et de normalisation, nous avions lancé en fait ce qu'on appelle le DDRR, qui est démobilisation et réintégration, donc des différents groupuscules en une seule armée. Et donc ce point-là des enfants soldats a été adressé. Adressé comment ? En faisant d'abord un nettoyage du fichier de l'armée. Vous avez peut-être suivi qu'avec le Premier ministre Matata, en 2012 et 2013, il a demandé à ce qu'on puisse identifier tous les militaires de l'armée congolaise au travers d'un fichier biométrique et que la paye des militaires puisse être effectuée par banque. Ça semble simple, mais c'est un mécanisme incitatif de contrôle, évidemment, de nos effectifs militaires et de qui sont ceux qui sont revêtus du titre de soldat et bénéficieraient de la paye de militaire. Et donc, ne peut être payé comme militaire que toute personne qui remplit les conditions, mais qui n'est pas mineur d'âge. Donc, ça a été une première étape de nettoyage. Il faut savoir aussi que depuis qu'on a enclenché ces programmes, on a quand même démobilisé 46 000 enfants soldats. 46 000, c'est un nombre sur 10 ans qui est assez significatif et qui montre, je pense, le degré d'engagement et de volonté que nous avons eu. Alors aujourd'hui, le problème des enfants soldats ne se pose plus tellement au niveau de l'armée congolaise, parce qu'on peut dire que c'est une armée qui est peut-être débarrassée des enfants soldats, mais la question demeure plus au niveau des groupes armés, je dirais, puisque vous savez que dans les groupes armés, dans les milices, ils ont, par le fait même de l'organisation et des structures de leur mouvement, ils ont encore parmi leurs structures des enfants soldats, et tout l'enjeu, c'est de les convaincre de libérer ces enfants soldats. Mais on peut donner un exemple. De janvier 2014 à décembre 2014, il y avait 2862 enfants soldats qui ont été séparés des groupes armés. De janvier 2015 à mars 2015, il y a 36 enfants soldats qui sont séparés des groupes armés. Et donc, la baisse du phénomène enfant-soldat va aussi avec le processus de sécurité et de pacification.
Dans ces efforts pour démobiliser les enfants-soldats, vous bénéficiez d'un appui de la MONUSCO et de l'UNICEF.
Oui, ça c'est très clair et je m'en veux peut-être de ne pas avoir suffisamment insisté. Ces processus sont des processus très complexes. Comme je l'ai dit, dans un pays qui avait un grand défi sur ces questions, sur ces deux questions, un grand pays, plus d'une trentaine ou une quarantaine de groupes armés, des incursions de groupes armés voisins qui venaient perturber et rendre la donne encore plus complexe et l'obligation de recouvrer l'autorité de l'État sur un territoire qui est finalement 6 fois plus grand que la France ou qui représente 3/4 toute l'Union européenne. Et donc effectivement, ce sont des processus complexes. Ce n'est pas un phénomène qui est typique à la RDC. Et donc il a bien fallu l'intervention des Nations Unies, l'UNICEF qui a cette expertise en matière de protection de l'enfant. Et donc ce qui a été fait pour arriver à ce résultat où on est une armée qui est libre de tout enfant soldat, eh bien il a fallu leur appui et donc c'est des patrouilles et des missions conjointes qui ont été effectuées par l'armée de la République démocratique du Congo, l'UNICEF et la MONUSCO dans tous les camps de cantonnement, dans tous les camps d'opération qui se trouvaient en République démocratique du Congo. Et donc, c'est une tâche herculéenne, mais il a fallu le faire parce que c'était un point vraiment tragique et un point de préoccupation pour la nation en tant que nation.